devant toi, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, ô mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis auditeurs, bonjour. Voici l'émission En sa présence, une émission du Centre biblique, et à la présentation, vous avez votre serviteur Danny Wechai. La fois dernière, nous avons considéré le Seigneur Jésus sur quatre montagnes, Gethsémané, Gabata, Golgotha et le Mont des Oliviers. Nous l'avons fait comme pour donner réponse à l'exhortation dans le prophète Ésaïe au chapitre 2, verset 3, passage que nous avons lu le jeudi dernier. « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Aujourd'hui, je vous invite encore à monter avec moi pour considérer notre Seigneur à un autre endroit, bien entendu, plus haut que les précédents, c'est-à-dire au ciel. Vous savez, quand on allait à Jérusalem, on montait, mais quand on allait en Égypte, on descendait. C'est tout un symbole. Jérusalem est l'image du ciel, sous ce rapport, tandis que l'Égypte est celle du monde. Quel chemin prends-tu aujourd'hui, celui du monde ou de la terre, pour devenir terre à terre, hein? Vous savez, ceux qui ne vivent que pour la terre finissent par être terre à terre, tandis que ceux qui suivent le chemin du ciel, je ne dirais pas qu'ils deviennent des anges, mais ils aspirent aux choses qui sont en haut. Considérons donc Jésus-Christ dans sa résurrection et nous en tirerons quelques conséquences. Le texte du jour se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 12 jusqu'à 20. Je lis. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Mais si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. La totalité du système de la foi chrétienne repose sur le fait de la résurrection de Christ. Car si Christ n'est pas ressuscité, dit l'apôtre Paul, notre prédication est vaine. Oui, notre prédication est donc vaine, dit-il. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est ce qu'il dit dans les versets 14 et 17. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Alléluia. Quelles sont les conséquences de la résurrection de Christ? C'est ce que nous allons voir dans la suite. La première, c'est sa divinité qui éclate au grand jour. C'est dans sa résurrection que la déité de Christ, je préfère ce mot déité à la divinité, car ce terme divinité a, depuis un peu plus de 30 ans, perdu un peu de son sens absolu dès lors qu'on l'applique aux hommes et aux choses. On parle par exemple de divine beauté pour désigner une beauté parfaite, une parfaite beauté. Je disais que c'est dans sa résurrection que la déité de Christ trouve sa meilleure preuve, puisqu'il fut déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. C'est un texte que nous trouvons dans Romains au chapitre 1er, au verset 4e. Il ne serait pas contre la raison de douter de sa déité s'il n'était pas ressuscité. À ce titre, je crois que les chrétiens sont bien fondés pour se réjouir parce que la réalité est que nous avons un chef qui est vivant, revivant. Christ, le chef de notre foi. Il est le seul qui soit mort et qui soit revenu à la vie. La deuxième conséquence, c'est notre justification. Il est dit dans Romains, au chapitre 4, verset 25, je cite, « Que Christ a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. » Cette grande et précieuse bénédiction de l'Alliance, il s'agit de la Nouvelle Alliance, se lie avec la grande victoire de Jésus-Christ sur la mort et le tombeau. Ceux qui croient en lui sont non seulement disculpés, mais Dieu les voit innocents. Ils sont devenus dignes d'entrer au ciel. Dans Jean au chapitre 16, verset 8 jusqu'au verset 11, parlant du travail qu'allait accomplir sur la terre le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a dit que le Consolateur, quand il serait venu, convaincrait le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, disait-il, parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. De justice, parce que je m'en vais au Père, dit le Seigneur Jésus. Voilà, rien au monde n'empêchera le chrétien d'entrer au ciel. Le chef de notre foi, qui était mort, étant revenu à la vie, est monté au ciel. Le chrétien a un boulevard qui l'amène au ciel parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. La troisième conséquence, c'est notre régénération. L'apôtre Pierre le dit clairement dans sa première épître au chapitre 1er, au verset 3. Que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La régénération signifie la nouvelle naissance dont parle le Seigneur Jésus lui-même à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Oui, la nouvelle naissance, d'après le Seigneur Jésus, est une expérience indispensable, même à un religieux, un grand dignitaire religieux comme Nicodème. Oui, c'est indispensable également à tout homme pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Elle est le plus grand miracle, puis-je dire, de Dieu, dans la vie de chaque homme descendant d'Adam. Pervers, vendu au péché. Par elle, nous recevons une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau et une nature nouvelle avec des caractères nouveaux. Cela fait qu'on ne vit plus volontairement dans le péché. Celui qui est né des dieux ne pratique pas le péché, dit l'apôtre Jean dans sa première épître, au chapitre 3, au verset 9. Si quelqu'un trouve du plaisir dans le péché, je crois que c'est une indication claire qu'il n'est pas né de nouveau. Voyez, je me souviens du contact que j'ai eu avec une personne dans cette ville de Bounia. C'était une personne qui était rongée par le désir chronique du tabac. Il avait tenté moult fois d'abandonner la cigarette, mais il n'y était pas arrivé. Et quand il a présenté cette difficulté, ce péché et son désir d'en être libéré, nous avons partagé la parole de Dieu parce que c'est elle seule qui libère. Et comme le Seigneur Jésus le disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ayant entendu la vérité de l'évangile, cette personne a décidé de se repentir. Elle s'est mise à genoux. Et nous avons invoqué le Seigneur Jésus, comme il est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et ce jour-là, les liens du tabagisme étaient rompus. Et au moment où je vous parle, cette personne est libre. Et elle peut témoigner partout, et ceux qui sont dans son entourage peuvent en témoigner également. Voilà, celui qui est né de Dieu n'est pêche pas. La quatrième conséquence concerne notre résurrection finale. Dans Romains au chapitre 8, verset 11, nous avons cette assurance. Je cite, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Oui, si Christ n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas non plus. En revanche, s'il est ressuscité, alors ceux qui se sont endormis en lui n'ont pas péri, mais ils contempleront assurément leur Dieu. Le Seigneur Jésus déclarait dans Jean au chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, quand bien même il mourra, je le ressusciterai au dernier jour. » Oui, le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, nous passons par diverses afflictions, par des maladies terribles. Notre corps se désagrège, notre corps se désintègre à cause de la maladie. La maladie, c'est un ennemi. Et la mort, dit la parole de Dieu, est le dernier ennemi. Ce dernier ennemi sera détruit, mais ce le sera par la vertu de la résurrection de Jésus-Christ. La pierre qui était posée à l'ouverture du sépulcre du Seigneur a été roulée, et le Seigneur, dans la puissance du Fils de Dieu, sortit vivant du tombeau. Ceci me rappelle ce que nous voyons dans Ézéchiel 37, la vision de la vallée des ossements. L'Esprit des dieux s'adressait à Ézéchiel pour lui montrer qu'il y avait une espérance vivante pour Israël, que ses ossements pouvaient reprendre vie. Et c'est ce qui fut fait. L'Esprit a soufflé sur ses ossements, les nerfs se sont réactivés,
les os ont repris de la chair,
et ainsi il y a eu reprise de vie. Et la parole de Dieu indiquait en ce moment-là au prophète que de la même manière que les ossements avaient repris vie, ainsi Israël rentrerait dans sa terre natale. Ainsi, le croyant, quoique mort, un jour ressuscitera par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La cinquième conséquence, enfin, c'est la souveraineté de Jésus-Christ. Le fondement de cette souveraineté nous est présenté dans Romains au chapitre 14, au verset 9. Je lis les versets 8 et le verset 9. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Verset 9. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Alléluia. Je suis de ceux qui prêchent Christ non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Comme il nous est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul prêchait Jésus-Christ comme Seigneur. Il est le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Ce mot Seigneur dans la Bible signifie maître. C'est dans Jean au chapitre 13 et au verset 13 que le Seigneur répondait à ses disciples en disant ceci. « Vous m'appelez maître et seigneur, vous le dites bien, car je le suis. » Cela signifie que quand nous appelons Jésus-Christ Seigneur, il est notre maître. Nous reconnaissons son autorité sur nos vies. Le maître, celui qui nous a rachetés, qui nous a tirés du bourbier du péché, il a payé de sa vie. C'est le prix auquel nous avons été rachetés. Et en vertu de ce prix, en vertu donc du sang précieux qu'il a versé, il s'est acquis sur nous tous les droits de propriété. Les droits que Satan avait autrefois dans nos vies sont brisés, définitivement brisés. Il y a des personnes sur lesquelles Satan s'est méchamment acquis de droits. Et à partir de là, Satan règne dans leur vie. Soit parce que ils sont allés chercher un fétiche quelque part, soit parce que ils sont tombés dans certaines pratiques contre nature. Vous savez que des gens qui pratiquent l'homosexualité ou des femmes qui vivent et pratiquent le lesbianisme sont des jouets de Satan, puisque ils vivent selon des lois qui sont pas conformes aux lois que Dieu a établies. Et quand on viole des lois naturelles, parfois on viole aussi des lois spirituelles, et ainsi on tombe sous la domination, sous la tyrannie de Satan. Ainsi, Christ étant ressuscité d'entre les morts, nous donne maintenant d'être libres et d'être assujettis à son autorité. Le seul qui puisse convenablement exercer l'autorité d'une manière digne dans le livre de l'Apocalypse. Il est vu à la fois comme l'agneau immolé et le lion de la tribu de Juda. Seul lui peut exercer son autorité pour nous faire du bien. Dans Jean au chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, il pouvait dire au Père qu'il a reçu de lui l'autorité de donner la vie. L'autorité du Seigneur, ce n'est pas de brimer. S'il veut régner sur nous, c'est pour nous donner la vie. C'est pour nous faire du bien. Les rois et les princes de ce monde tyrannisent. Mais lui, l'agneau immolé, qui a les mains percées, ses mains pleines de douceur, il peut nous accueillir et il peut nous conduire comme un bon berger, conduit ses brebis vers de verts pâturages, vers de eaux paisibles, le seul. Oh, je voudrais que le Seigneur dirige en permanence ma vie, que nous prions disant que ton règne vienne et que ton royaume s'établisse au fond de moi. As-tu décidé de te placer sous l'autorité de Jésus-Christ, le véritable roi, le Seigneur des Seigneurs? Il est revenu à la vie afin de dominer et sur les morts et sur les vivants. Renonce à Satan. Peut-être es-tu chrétien, mais connais-tu Jésus-Christ comme ton seul Seigneur? Dans Luc au chapitre 6, au verset 46, le Seigneur disait à ses disciples, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Cela signifie que si nous appelons Jésus Seigneur, nous devons faire ce qu'il dit. C'est une contradiction interne à notre propre langage que de dire « Non, Seigneur ». Si vous dites à Jésus « Seigneur », cela signifie que, a priori, vous êtes disposé à lui obéir en toute chose. Hudson Taylor, missionnaire pionnier qui alla en Chine, disait ceci « Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. » Est-ce que Jésus-Christ régente tous les aspects de votre vie? Un jour, j'étais à Kinshasa et à l'occasion, j'ai eu un entretien avec une jeune fille d'environ 18 ans. Quand je lui ai posé cette question, elle m'a répondu en disant « Oui, j'ai cru au Seigneur, mais j'ai comme l'impression que l'argent est mon maître. » Et je lui ai posé la question de savoir comment c'était. Elle m'a dit qu'elle avait une de ses sœurs aînées qui était en Angola, qui faisait les affaires, et qui lui a donné un jour une somme importante d'environ 13 000 dollars. Et depuis lors, elle a remarqué que dans sa vie, elle ne savait plus se détacher de l'argent. On dirait que l'argent, comme le dit le Seigneur, maman, était devenu son maître. Et je paraphrase ce qu'elle me disait. Elle disait en lingala, « Même si je n'ai pas un programme tout particulier avec l'argent, mais si je tape ma poche, j'aime entendre le cliquetis de l'argent. » Et elle disait en lingala, « Nalinga kasuki na salibo enayoka ezolela. » Alors quand j'ai entendu ces paroles, j'ai discerné qu'il y avait comme un lien. Alors je lui ai posé la question en disant, « Mais est-ce que tu veux renoncer à cette emprise dans ta vie ?» Elle était d'accord et nous nous sommes mis à prier. Elle s'est mise à genoux et elle a confessé son péché, elle a renoncé à cette emprise de l'argent. Et vous savez ce qui s'était passé? Au moment où j'invoquais le nom du Seigneur, son autorité, sa souveraineté dans la vie de cette jeune fille, eh bien, elle s'est mise debout, elle a commencé à sursauter, elle s'est déshabillée, elle vidait ses poches. C'était une possession démoniaque. Elle était liée par un mauvais esprit. Chers amis auditeurs, Jésus-Christ est-il réellement le Seigneur de votre vie? Alors, comme la Bible le dit dans Philippiens au chapitre 2, au verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, les genoux des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, si tu reconnais dans ta vie qu'il y a un lien, qu'il y a peut-être quelque chose qui est comme une idole dans ta vie, encore qu'aujourd'hui, des idoles, c'est pas seulement ces idoles au sens grossier ou grotesque du mot, telles que la magie, la sorcellerie, l'occultisme, le fétichisme, mais il y a des idoles modernes, Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 5, au verset 20, ayant montré que Jésus-Christ est le Dieu véritable et que nous sommes dans le Dieu véritable en Jésus-Christ, au verset 21, il nous exhorte en disant « Enfants, fuyez l'idolâtrie. Enfants, fuyez des faux dieux. Enfants, fuyez les idoles. » Il y a des idoles dans ce monde, des idoles sportives. Il y a des chrétiens qui sont liés à des équipes de football avec passion. Il y a des idoles politiques. Il y en a qui sont prêts à mourir pour un dirigeant politique. Encore que, il y a peu, nous sommes passés par la campagne électorale. On a vu des chrétiens porter des t-shirts et avec une grande détermination, s'est livré à des campagnes pour telle ou telle personne, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le Christ. C'est aussi une espèce d'idolâtrie. Il y a aussi l'idolâtrie musicale. Je me souviens encore, un jour, à Kinshasa, voilà que, après le message, un groupe de personnes est venu pour la prière. Pendant que nous prions, une jeune fille s'est retrouvée à terre, en train de rouler et de dire « Chérie, chérie », elle citait le nom d'un musicien. Cher ami auditeur, est-ce que maintenant Jésus-Christ est Seigneur? Renonce à tes idoles. Tu chantes les louanges du Dieu vivant d'un côté, mais d'un autre côté, tu chantes les insanités du monde. Que Dieu te donne aujourd'hui de décider de te placer sous la seigneurie de Jésus-Christ et d'être son adorateur. Prions. Seigneur Jésus, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es ressuscité des morts afin de dominer et sur les morts et sur les vivants. Donne-nous aujourd'hui, nous qui avons entendu ta parole, de nous laisser gouverner par toi. Romps les chaînes de la servitude démoniaque. Rends les chaînes de la servitude du monde dans la vie de ceux qui ont entendu ce message. Que ton règne vienne et que ta gloire paraisse dans nos vies pour toujours. Amen. Avez-vous besoin de contact au sujet de cette émission? Eh bien, vous pouvez appeler Danny Wechai, votre serviteur.
Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ton amour manifesté à la croix pour moi. Tu as quitté ton trône de gloire et tu as payé le prix par ton sacrifice afin de me donner la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que je veux t'élever, Seigneur.
Sur la terre pour me sauver, à Golgotha, sur une croix, il sacrifia sa vie pour moi. Son sang précieux m'a racheté de tous mes péchés et je vis. Voilà pourquoi je veux le louer, élever son nom.